Upload UTC, l'université populaire du libre, ouverte, accessible et décentralisée à l'UTC. Avec les étudiants de WE01, encadrés par Audrey Guélou et Stéphane Croza.
Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Stéphane Croza, responsable du cours WE1 Écrire, communiquer, collaborer sur le web à l'UTC. On peut retrouver la descriptive de ce cours et les supports sur librecours.net. On est en ce moment en direct du studio de Graphite sur 94.9 FM à Compiègne. Et donc, c'est la troisième semaine d'émissions qui sont animées par des étudiantes et étudiants sur des thématiques en lien avec le web. Alors jusqu'ici, on a parlé low-technicisation, on a parlé médias sociaux, désinhibition, surveillance et smart cities. On peut retrouver ces émissions précédentes sur le site aperi.tube, chaîne WE1. Alors cette semaine, on va commencer par écouter deux premiers groupes qui vont nous parler de données. Le premier, donc, ce sera Édouard Blanc, Dimitri Rudenko, Alban Stourbe, et également donc, pour une préparation qui a été réalisée avec Océane Poussin, qui n'est pas avec nous dans le studio, et l'intitulé est « Peut-on garder le contrôle sur ses données personnelles ?». Ensuite, on aura Bastien, Thomas et Charles pour « Enjeux environnementaux liés au stockage et à la transmission des données informatiques ». Et ensuite, vers 16h45, eh bien, deux autres groupes travailleront avec Audrey sur le numérique, un élan controversé et affordance des médias sociaux numériques. Les autres étudiantes et étudiants du TD sont à l'écoute et posent des questions que je relaierai au fur et à mesure. Alors, tout d'abord, Édouard, Dimitri, Alban, bonjour à tous les trois, vous êtes prêts ?
Bonjour. Bonjour.
Oui.
Bonjour.
Oui, on est prêt.
Ok, alors vous allez nous présenter un plan en trois parties. Donc d'abord, vous allez nous parler, nous introduire, je crois, Dimitri, rapidement la notion de données personnelles. Ensuite, vous allez poser un certain nombre de questions liées au, notamment, par exemple, au vol de données. Ensuite, on parlera logiciel libre et données personnelles. Et enfin, on abordera la question du consentement des utilisateurs. Mais donc, si on est prêt, eh bien, Dimitri, je te passe la main pour la première partie.
D'accord. Donc, pour commencer, nous allons nous interroger sur que sont les données personnelles. Le CNIL, donc la Commission nationale de l'informatique et des libertés, chargée à veiller à la protection des données personnelles contenues dans les fichiers de traitement informatique ou papier, aussi bien publics que privés, définit elle-même les données personnelles comme toute information se reportant à une personne physique identifiée ou identifiable. Nous pouvons donc parler de données personnelles ou de données à caractère personnel quand il s'agit d'une information se reportant à un individu, qui est déjà identifié ou qui peut l'être de façon directe ou indirecte. Nous pouvons donc voir quelques exemples de données qui peuvent être récoltées, notamment les mails, les noms, les photos, une empreinte digitale, le téléphone ou même une adresse postale. Il y a également la prise des empreintes digitales de votre navigateur, qui est une autre méthode qui peut être alors utilisée pour identifier les utilisateurs sans même qu'ils ne saisissent de données d'informations personnelles identifiables. Il s'agit alors de suivre et de détecter les informations de configuration et de paramétrage que les navigateurs rendent visibles. Étant donné qu'il y a peu de chances qu'une autre personne ait la même configuration que vous, par exemple la taille de l'écran, le matériel, les plugins de navigateur, le logiciel de navigation, l'adresse IP ou même le type de navigateur, il est alors possible de savoir si vous êtes le même visiteur qui est venu le mois dernier ou qui est visité un autre site internet. À quoi peuvent alors servir ces données personnelles récoltées ? Donc tout d'abord à nous identifier en ligne, auprès des différents organismes ou d'entreprises commerciales. Cela peut alors avoir des avantages, notamment en ce qui concerne les conforts des internautes lors de leur navigation et de la personnalisation des offres commerciales qui lui sont envoyées. La collecte de données personnelles est souvent à la base même du fonctionnement des services en ligne. C'est donc un processus entre guillemets normal. Mais aujourd'hui, les données personnelles constituent également de véritables actifs pour les entreprises, dans la mesure où celles-ci constituent des sources de revenus très importantes pour des activités reposant sur des données relatives aux consommateurs. Mais alors, quels sont les risques liés aux données récoltées ? Pourquoi cette volonté de défendre et préserver la vie privée sur Internet est devenue essentielle ? Pour cela, nous pouvons écouter une première audio, qui est un extrait d'une vidéo des Quadratures du Net, donc une association qui lutte pour les libertés sur Internet, et notamment un passage de Antonino Cassilli, qui est sociologue et membre de cette association.
Certains géants se sont accaparés ces données afin d'en tirer le plus grand profit.
Les données personnelles sont au centre d'un marché mondial. Les parties prenantes de ce marché, les acteurs de ce marché, c'est parfois des entreprises de la tech, des entreprises du numérique comme les Facebook, les Google, parfois des entreprises dont on connaît un peu moins l'activité, comme ce qu'on appelle les courtiers en données. Donc il s'agit d'intermédiaires qui collectent des informations à partir non seulement de ce que nous faisons sur Internet, mais aussi à partir de ce que les administrations publiques savent de nous, ou les commerces dans lesquels nous faisons nos courses savent de nous. Pensez par exemple aux cartes des grandes surfaces, aux cartes fidélité des grandes surfaces. Donc tout ça, à la fin, s'ajoute en plus à des bases de données qui sont constituées à des fins de renseignement. Et de tout cela, on fait commerce aujourd'hui.
Donc, suite à cet audio, nous pouvons nous interroger sur, enfin, nous pouvons présenter quelques exemples de risques liés à cette collecte de données personnelles. Donc, tout d'abord, la destruction de la réputation. Les informations que nous laissons sur le web en disent long sur la personne que l'on est. Or, ces informations, dès lors qu'elles sont diffusées, peuvent être utilisées par d'autres et ne peuvent plus être supprimées. Par exemple, lorsqu'un potentiel recruteur peut avoir accès à notre historique de recherche ou des photos lors de nos soirées arrosées. Il y a également l'usurpation d'identité. Le CNIL lui-même met en garde contre cette pratique. Le plus souvent, l'usurpation d'identité se fait via les réseaux sociaux. Les utilisateurs voient alors leur identité copiée ou leur compte piraté. Les usurpateurs, en plus de poster des commentaires, du contenu ou envoyer des messages, peuvent également diffuser des spams ou encore des arnaques. Aujourd'hui, c'est une technique très répandue sur le net. Il y a également des vols d'argent, notamment avec la technique du phishing. Cette technique consiste à envoyer un email en se faisant passer pour une organisation publique ou privée à un internaute, bien souvent ciblé grâce à des données déjà récoltées, afin de rediriger alors l'utilisateur vers une autre page web sur laquelle il devra renseigner d'autres données qui vont alors servir à effectuer des opérations bancaires la plupart du temps. Pour terminer, nous pouvons parler d'un autre problème qui est la manipulation de ces données et des opinions. Pour cela, nous pouvons commencer par écouter un extrait audio d'une partie de l'émission de RT France sur la collecte des données personnelles.
Mon smartphone peut repérer votre signal Bluetooth ou le signal Wi-Fi qu'émet votre téléphone et donc identifier que nous sommes en contact, hein, dehors de tout un tas d'autres méthodes scientifiques. Et Facebook récolte ces données. Et Facebook récolte une quantité astronomique de données, mais ce n'est pas le seul. Il y a plein d'opérateurs publics et privés qui récoltent toutes ces données. Et ces données sont peu à peu agrégées pour en faire sens. Et c'est là qu'on a des dérives du type Cambridge Analytica. C'est là que les modèles les plus pointus aujourd'hui permettent de faire du prédictif, permettent d'analyser qui vous êtes, vos ressorts psychologiques, et de faire en sorte de vous donner ce qu'on appelle un nudge en psychologie, c'est-à-dire la petite chose qui va vous faire basculer dans une opinion ou une autre, qui va vous convaincre d'acheter un produit
d'assurance. Est-ce qu'ils sont vraiment capables ? Parce qu'ils aimeraient bien en être capables, mais est-ce qu'ils le sont vraiment ?
Il n'y a pas de réponse dans l'absolu. Il faudrait faire une expérience scientifique. On est encore très très loin d'être en mesure de faire une expérience scientifique. Qui plus est, il faudrait prendre le même pays dans les mêmes conditions et faire avec et sans comme Cambridge Analytica. Le mode opératoire de l'expérience en elle-même est difficile. Mais il y a quand même eu énormément d'études autour de ces données psychométriques qui montrent que clairement, quelque chose. Et puis il y a un track record qui parle pour lui-même. Brexit, élection présidentielle américaine, élection brésilienne. Derrière ces trois élections, dans le camp des vainqueurs, parce qu'on peut se prononcer sur le vainqueur au Brésil malheureusement, dans le camp des vainqueurs, on a Cambridge Analytica.
Au Brésil aussi.
Donc on a très clairement un track record et de très forts soupçons qui peuvent nous permettre de dire il y a quelque chose. On ne peut pas balayer ça d'un revers de main, on ne peut pas non plus affirmer scientifiquement que c'est avéré, parce qu'il n'y a pas, non seulement la réalisation de l'expérimentation n'est pas évidente, mais elle n'a pas été faite.
Donc, dans cet extrait, Fabrice Eppelboin aborde le sujet de Cambridge Analytica, société anglaise de conseil en gestion combinant des outils d'exploration et d'analyse des données. Nous savons qu'en 2016, Donald Trump a utilisé les services de cette société dans le cadre de sa campagne électorale, une utilisation qui a mené à un scandale impliquant Facebook. En effet, la plateforme, ayant eu un accès au compte Facebook de centaines de milliers d'utilisateurs, a utilisé les données récoltées à leur insu à des fins politiques. C'est en prenant ce genre d'exemple que l'on peut mesurer l'ampleur des problèmes que la collecte et l'utilisation frauduleuse des données personnelles d'utilisateurs du web peut causer et des questions éthiques que cela soulève. Mais alors qu'y a-t-il aujourd'hui pour protéger nos données personnelles ? En 2018 a été mis en place le RGPD. C'est alors le Règlement général de la protection des données. C'est un texte de loi européen. Celui-ci, comme l'indique son nom, a pour objectif principal de protéger les données personnelles. Au cœur du fonctionnement du RGPD se trouve alors la notion du privacy by design. Il s'agit d'inclure, dès la conception des supports, des mesures permettant le contrôle et la limitation des collectes de données. Le Privacy by Design est efficace sur certains points, mais comporte tout de même des failles qui sont aujourd'hui utilisées par les différentes entreprises. Parmi les techniques que certains emploient, il y a ce qu'on appelle le design abusif. C'est alors une technique très répandue. Par exemple, c'est mettre en place un bouton « accepter » qui est en couleur quand il est demandé à l'utilisateur d'accepter ou non des conditions d'utilisation, alors que le bouton pour ne pas les accepter est écrit en tout petit, en haut ou encore caché dans un autre lien hypertexte renvoyant à une autre page.
Merci beaucoup Dimitri de cette introduction et de nous avoir présenté différents risques liés à la collecte des données. Peut-être que sur certains de ces risques, je ne sais pas si peut-être tu peux compléter avec quelques exemples. Que ce soit sur la partie peut-être destruction de la réputation ou usurpation d'identité ou peut-être sur les fuites de données. Enfin voilà, sur différents aspects dont tu as parlé. Est-ce qu'il y a des exemples peut-être que tu as avec toi?
Je ne sais pas sur moi, mais on avait lu du coup un article qui parlait de Jeff Bezos, qui même lui qui a eu un cas de vol de données et du coup qui a son divorce qui était lié à cette fuite de données, notamment dû à un piratage.
Ok, donc ça peut arriver à n'importe qui. C'est ce que tu nous dis là. Alors je te relaye quelques questions si jamais ça t'inspire, ou évidemment si jamais ça inspire quelqu'un d'autre dans le studio. Tu en as parlé un tout petit peu avec le RGPD, mais est-ce que vous avez d'autres pistes ou tu as d'autres pistes pour, en tant qu'utilisateur, empêcher la collecte abusive de données?
Du coup, on peut trouver différents guides qui nous expliquent ce qu'on peut faire pour protéger au mieux nos différentes données personnelles sur Internet. Notamment, tout d'abord, configurer notre navigateur. Ce qu'on pense très peu à faire, c'est d'aller dans les options, notamment par exemple de Google, qui est souvent qui est utilisé par plus de 90% des utilisateurs, et de le configurer sur ce qui peut être conservé dans notre historique, sur les différents cookies. Nous pouvons également changer de moteur de recherche. Par exemple, il y a Quant, qui permet de ne conserver absolument aucun cookie et de limiter toutes les données personnelles qui peuvent être sauvegardées. Il y a également une société française, Exoduc Privacy, qui permet de faire un scan des différentes applications et nous explique alors sur chaque application ce qui est conservé comme données personnelles et ce qu'elle en fait. Donc c'est une société française qui peut être très utile et qui est recommandée d'utiliser. Il y a également, nous pouvons également désactiver notre Wi-Fi ou la géolocalisation. Par exemple, ce qu'on pense très peu à faire, parce que quand notre Wi-Fi est activé, même quand on n'est pas connecté, notre téléphone envoie différents signaux. Et du coup, il est possible très facilement de représenter une carte de nos déplacements, même si on est connecté à aucun réseau. Et pour finir, il faut toujours se méfier du gratuit. Même quand on utilise une application qui semble gratuite, nous sommes le produit et donc il faut toujours faire attention à nos données dans ces cas-là.
Ok, merci de ces différents conseils. Alors il y a d'autres questions, mais je vais les garder pour un petit peu plus tard quand on aura peut-être élargi un petit peu la discussion. Et donc si Edouard est prêt, je lui passe la parole pour la seconde partie et donc nous parler de logiciels libres et données personnelles.
Tout à fait. Donc, lorsque on aborde le sujet de la collecte abusive et non consentie des données utilisateurs, on pense quasiment instantanément aux géants du web connus de tous, les GAFAM, à savoir Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, et à tous les scandales qui les accompagnent, Cambridge Analytica, pour reprendre l'exemple de Dimitri. Souvent présentés comme tout-puissants, ces géants renvoient aujourd'hui une image plutôt négative des acteurs du web. Pourtant, il existe un courant qui représente aujourd'hui une alternative puissante et plus éthique, les services et logiciels libres. Avant de vous expliquer pourquoi ces logiciels sont plus respectueux de l'utilisateur, notamment vis-à-vis de ses données personnelles, nous allons essayer de les définir et de retracer rapidement leur histoire. Première chose, qu'est-ce qui définit un logiciel libre ? Selon la FSF, la Free Software Foundation, un organisme dont le but est justement la promotion du libre, un logiciel libre est un logiciel dont l'utilisation, l'étude, la modification et la duplication en vue de sa diffusion sont permises techniquement, accès au code, etc., et juridiquement. La notion de logiciel libre est alors opposée à celle de logiciel propriétaire, qui ne respecterait pas les quatre propriétés énoncées. Un peu d'histoire maintenant. Comment est-ce que ce mouvement est né et où est-ce qu'il en est aujourd'hui ? Vous connaissez sûrement l'histoire de Richard Stallman et de son imprimante capricieuse. Elle s'inscrit en fait dans un contexte historique particulier. À la fin des années 80, les entreprises commencent à vendre le matériel informatique séparément du code permettant son utilisation, pour permettre l'apparition d'un marché compétitif et lucratif, réduisant de ce fait l'accès et la modification de ces dix codes ou logiciels. Opposé à cette idée et à ce que les logiciels étaient en train de devenir, Stallman crée le projet GNU en 1984, un logiciel d'exploitation libre et fonde la FSF citée avant. C'est alors une communauté qui se crée et qui développe d'abord GNU, puis de très nombreux autres logiciels libres. Vous en connaissez certainement plusieurs, comme Linux, Firefox, LibreOffice, etc. Il y en a plein de moins connus et qui font fonctionner Internet aujourd'hui. En fait, ils sont aujourd'hui indispensables au monde du numérique. Nous allons maintenant écouter un extrait audio de Richard Stallman. C'est un extrait d'une conférence qu'il a faite le 28 novembre 2011, qui s'appelait le logiciel libre, pratique et éthique.
Respecter la liberté des utilisateurs. De quelle liberté s'agit-il? Il y a quatre libertés essentielles qui définissent le logiciel libre. Et donc, un programme est libre pour toi comme utilisateur si tu possèdes ces quatre libertés. La liberté zéro est d'exécuter le programme comme tu veux. La liberté numéro un est d'étudier le code source du programme et de le changer pour que le programme fasse ton informatique comme tu veux. La liberté numéro 2 est celle d'aider les autres, c'est-à-dire de faire des copies exactes et de les distribuer aux autres quand tu veux. Et la liberté numéro 3 est de contribuer, et celle de contribuer à ta communauté, celle de faire des copies de tes versions modifiées et de les distribuer aux autres quand tu veux. Si le programme porte les quatre libertés essentielles, il est libre parce que le système social de son utilisation et sa distribution est un système éthique qui respecte les droits de l'homme des utilisateurs. Mais si une de ces libertés manque, ou en ce cas le programme est privateur parce qu'il impose un système social pas éthique à ses utilisateurs. La distinction entre le logiciel libre et le privateur n'est donc pas une distinction technique.
Maintenant que, grâce à cet extrait très dynamique, nous avons une définition précise des logiciels libres et de ce qu'ils représentent, selon quels principes ils sont développés, nous allons voir en quoi ils représentent aujourd'hui un outil clé quant au contrôle de l'utilisateur sur ses données et donc plus généralement au respect de sa vie privée. Le respect de la vie privée des utilisateurs est un problème que l'on doit qualifier de dynamique aujourd'hui. Les normes de vie privée évoluent et ne cessent d'être définies. La privacy est ce dont on fait l'expérience dans une situation et une époque donnée. Les normes de protection de la vie privée de l'utilisateur ne doivent alors pas être définies dans la conception même du logiciel, ce que Dimitri expliquait avec le concept de privacy by design instauré par le RGPD, mais personnalisées par et pour chacun via un ensemble d'instruments technologiques, juridiques ou informationnels permettant de développer la capacité des utilisateurs à apprendre et à régler les problèmes de privacy liés à l'utilisation du web et du numérique. C'est ce qu'on appelle le privacy by using. À traduire littéralement en français pour comprendre, c'est-à-dire le respect de la vie privée par l'utilisation. Le privacy by design, souhaité par le RGPD via l'article 25, se veut protectrice de la vie privée de l'utilisateur dès la conception du logiciel et représente donc un ensemble de mesures techniques et organisationnelles préventionnelles. Bien qu'elle impose plus de transparence et limite les dérives, cette méthode ne satisfait pas le respect de la vie privée de l'utilisateur dans le sens où on l'a définie, d'où la nécessité d'imposer le privacy by using. Un terme défini par Alain Rallet, Fabrice Rochelandais et Célia Zolinski dans leur livre « De la privacy by design à la privacy by using » sorti en 2015. Et c'est en ça que le logiciel libre représente une condition nécessaire, mais pas suffisante, au respect de la vie privée de l'utilisateur, puisque le code qu'il utilise est consultable et modifiable par lui-même s'il est informaticien ou par un tiers compétent. Dans tous les cas, il peut être assuré qu'une communauté de développement et d'utilisation active a passé en revue le code, les conditions d'utilisation, etc. et est prête à répondre à ces questions et à l'aider à modifier le logiciel comme il le désire, souvent contre rémunération. Ce n'est pas le cas pour les logiciels non libres ou propriétaires. Prenons Facebook par exemple. L'utilisateur doit rentrer pour l'utiliser un nombre d'informations considérables, son âge, ses centres d'intérêt, etc., sans savoir ce qu'elles vont devenir. Il y paie un prix non déterminé. Il met à disposition ces informations en échange d'un service assuré gratuitement et souvent optimal, avec une communauté planétaire, très peu de bugs, des dysfonctionnements très rares et corrigés de suite, des services qui sont utilisés pour se connecter à beaucoup d'applications, etc. Cependant, il accepte un fonctionnement souvent opaque, car mal défini dans les conditions d'utilisation, et il doit faire confiance à un tierce pour deviner et respecter ses envies en matière de vie privée personnelle. Nous sommes donc face à une incompatibilité conceptuelle entre logiciel propriétaire et respect de la vie privée.
Merci Edouard. Donc tu conclus en parlant donc d'une incompatibilité entre logiciel non libre et respect de la vie privée. Donc je note cela. On a une question de Florine. Alors qui nous dit si les logiciels libres permettent de faire plein de choses. Et en plus, j'ajoute donc suite à ta conclusion que ce sont les seuls compatibles avec le respect de la vie privée. Pourquoi? Alors, elle écrit « Ne sont-ils pas plus répandus et utilisés ?» J'ajouterais, ou plutôt, pourquoi pense-t-on qu'ils ne sont pas plus utilisés et répandus ? Est-ce que tu as quelques pistes autour de cela ?
Y a deux choses. Déjà, avant de faire l'UV, par exemple, moi, j'avais jamais entendu la notion de logiciel libre. Donc, je pense que c'est un courant qu'on ne pourrait pas qualifier de mainstream, c'est-à-dire très populaire, notamment chez les jeunes. Et ensuite, pour une autre raison, qui est que si, par exemple, tu utilises un service alternatif à Messenger, donc une messagerie, le principe, c'est de communiquer avec son groupe de pairs, son entourage. Et donc, si on change pour une alternative libre, il faut, en plus de ton changement personnel, ramener la communauté avec laquelle tu échangeais sur Messenger sur ce logiciel libre. Et donc ça, c'est une démarche qui n'est pas facile de convaincre ses proches de changer pour des raisons qui leur semblent souvent obscures parce qu'ils n'y connaissent pas grand-chose. Donc c'est pas évident. Changer soi, c'est facile. Faire changer les autres, c'est plus compliqué.
Ok pour ça. J'ajoute aussi que en fait c'est intéressant dans l'exemple que tu prends parce que c'est un phénomène. Je suis un tout petit peu plus vieux que vous, un ou deux ans, et donc c'est un phénomène qu'on a observé dans le mouvement du logiciel libre, c'est-à-dire que il y a eu un moment où les choses ont vraiment commencé à se diffuser, et puis ensuite effectivement il y a eu la question des services web libres, et là effectivement les choses ont un petit peu changé puisque exactement comme tu viens de le dire, hein, le coût du changement est accru par la surface des autres utilisateurs avec lesquels on doit se déplacer. Donc ça a posé des problématiques nouvelles. J'en profite pour faire un petit peu de pub, mais c'est comme cela qu'une association comme Framasoft, qui s'occupait essentiellement de logiciels libres, a décidé à partir de 2014 de s'occuper de libérer aussi, ou de voir comment on peut libérer des choses au niveau des services web.
Après, il y a une autre chose aussi, je pense, c'est que c'est une philosophie d'utilisation qui est beaucoup moins passive. Ça demande un minimum d'implication si on veut aller dans la démarche jusqu'au bout, de recherche, de travail. Et je peux comprendre que ce n'est pas quelque chose qui fasse envie à tout le monde. Enfin, je pense que c'est
le travail, tu veux dire ?
Oui, c'est ça, exact. Non, mais c'est ça, d'être de plus être passif par rapport à sa machine. Oui, je pense que ça fait peur.
Ok. Alors, tu me tends une perche. J'avais préparé une question qui du coup s'enchaîne bien. Quand tu nous as parlé de privacy by using, en fait, ce que j'en comprends, c'est que pour que ça fonctionne, il faut justement que les utilisateurs aient des compétences, soient capables à un moment de faire des choix, des configurations, etc., etc. Donc, ça va un petit peu dans le même sens que ce que tu dis là, en quelque sorte. Est-ce que toi ou vous là avez des pistes pour comment est-ce que vous imaginez qu'on pourrait progresser sur ce terrain de la mise en compétence des utilisateurs?
C'est une question qui n'est pas évidente, à laquelle j'avoue j'ai pas forcément de réponse. Mais c'est dur. Imagine, on ne peut pas faire de cours obligatoires à l'école sur la protection de ces données. Mais oui, je pense que le mieux à faire, c'est de se renseigner tout seul. J'imagine qu'il y a des grands thèmes qui se recoupent et qui sont facilement identifiables lorsqu'on met un peu le nez dans le code source.
Pas mieux ? Ok, bah je note. Donc, on ne peut pas faire de cours obligatoire sur la protection des données. Donc, on peut en faire sur... On peut en faire en géographie, en histoire, oui. En maths, non, mais pas sur la protection des données.
Non, mais si, pourquoi pas. Mais j'ai pas l'impression que ce soit le...
À la place de l'OMC.
Ce soit la tendance.
Ok, merci à toi pour cette intervention. Je vous propose que on continue donc avec l'intervention d'Alban qui, voilà, quelque part va venir aussi compléter ce.
C'est ça, je vais essayer de reprendre les deux parties de mes compères et de parler de consentement, moi, plus précisément.
Eh ben vas-y, t'as pris la main, go.
Et donc après tout ça, après l'intervention de Edouard et de Dimitri, on peut se demander si le respect de la vie privée en ligne et l'utilisation des données sur Internet préoccupent vraiment les utilisateurs. Si oui, comment peut-on expliquer que des entreprises comme Facebook, Instagram ou Google soient aujourd'hui les services les plus utilisés sur le web ? Puisqu'on a vu, il y a des fuites et il y a des alternatives comme les logiciels libres pour s'éviter ces fuites de données. Donc pour commencer, selon une étude conduite par Ipsos, entreprise de sondage français, entre le 21 décembre 2018 et le 10 février 2019, impliquant 25 000 personnes à peu près, d'utilisateurs d'Internet dans le monde, dont la France en faisait partie, 3 personnes sur 4 sondées se disent préoccupées par le respect de leur vie privée en ligne. Et quand je parle de respect de la vie privée en ligne, je parle sécurité des données, comment on collecte leurs données et comment les entreprises tierces les utilisent. Et de plus, la majorité des sondés, à savoir 53%, se disent aussi plus préoccupés sur ce sujet qu'ils ne l'étaient il y a un an. Donc il y a quand même une montée de préoccupation chaque année, on est de plus en plus préoccupés par ce sujet-là. Et aussi, pour confirmer ce propos, on peut aussi s'appuyer sur un exemple plus récent, l'apparition de l'application Tous Anti-Covid, qui a été mise en place par le gouvernement pour lutter contre la pandémie mondiale qu'on connaît tous, a remis la sécurité de données en France au centre des débats, puisque beaucoup de personnes ont été préoccupées par cette mise en place parce que l'application était capable de tracer la localisation de différents Français. Donc néanmoins, nous utilisons des services responsables de cette perte de contrôle, comme Google aujourd'hui, qui est utilisé par plus de 90% des personnes comme moteur de recherche. Et si on s'intéresse aux règles de confidentialité et conditions d'utilisation de Google, et plus précisément à la rubrique « Informations collectées par Google », nous tombons nez à nez avec une vidéo, un tutoriel, publié par eux-mêmes sur leur service YouTube. Et donc le but de cette vidéo est d'expliquer à ses utilisateurs comment et quel type d'informations ils collectent via leur service. Et je vais vous la faire écouter juste maintenant.
Lorsque vous utilisez des services Google, nous recueillons différentes informations qui peuvent être divisées en deux grandes catégories. Les informations que vous créez ou que vous nous fournissez et celles que nous recueillons via nos services. Voyons cela plus en détail. Concernant les informations que vous créez ou que vous nous fournissez, cela peut être le nom que vous indiquez lorsque vous créez un compte, une photo que vous avez importée dans Google Photos ou un message que vous envoyez via nos services. Quant aux informations que nous recueillons lorsque vous utilisez nos services, elles concernent les appareils, les applications et le navigateur que vous utilisez, ainsi que votre activité sur Google. Par exemple, les recherches effectuées, les annonces avec lesquelles vous interagissez, ainsi que les sites web consultés qui utilisent nos services. Il peut s'agir également d'informations sur votre position quand vous utilisez les services Google. Autrement dit, lorsque vous recherchez un café, nous pouvons nous appuyer sur vos termes de recherche et votre position pour vous aider à trouver le meilleur café à proximité.
Donc comme le montre cette super sympathique petite audio avec une très belle musique, dans les services Google, tout est prévu pour en apprendre le plus sur les internautes, leurs intérêts, leurs comportements et évidemment leurs données. Donc Google sait presque tout sur nous, en partie grâce à son super moteur de recherche très performant. Donc certes, les utilisateurs donnent consciemment des données à Google, mais l'entreprise en collecte aussi sans que nous en ayons réellement conscience. Je m'explique, parce qu'on est conscient et pas conscient, c'est pas très clair. Ce que je veux dire là, c'est que nous savons que l'usage de ces services nécessite obligatoirement la collecte d'un certain nombre de nos informations. C'est cette collecte qui permet à Google d'offrir un service très avantageux pour ses utilisateurs, puisqu'il est optimisé pour l'usage de chacun. Pourtant, Google collecte aussi des informations comme on l'a vu dans l'audio, notre position GPS ou des messages par exemple. Et donc on peut se demander alors si la collecte de ce type d'informations était vraiment justifiée et nécessaire à Google pour offrir ce fameux service adapté et très avantageux pour ses utilisateurs. Donc en utilisant des services comme Google, mais je prends Google comme exemple, mais c'est pareil pour Facebook, Instagram, les internautes ne peuvent pas contrôler la sécurité de leurs données, c'est un fait. Pourtant, ces services ne cessent d'accroître leur nombre d'utilisateurs chaque année, malgré que la préoccupation pour le respect de notre vie privée augmente aussi chaque année. Donc moi maintenant, je vais essayer d'explorer quelques pistes, quelques réponses pour tenter à répondre à cette question. Et donc là, dans un premier temps, on peut s'appuyer sur un livre qui parle de la notion du paradoxe de la vie privée. Donc pour Patricia Norbert, co-auteur du livre « The Privacy Paradox, Personal Information, Disclosure Intentions versus Behaviors », publié en 2007, le terme de « privacy paradox », donc « paradoxe de la vie privée » en français, représente la relation entre les intentions des individus à divulguer des informations personnelles et leur comportement réel de divulgation de renseignements personnels. Donc dans ce livre, Elle fait le constat que les internautes donnent accès librement à leurs données personnelles malgré une préoccupation du respect de leur vie privée. Elle émet donc l'hypothèse que ce paradoxe réside dans le fait qu'on attend plus de protection de notre vie privée et de nos données personnelles sur le Internet, alors que même nos comportements individuels en ligne laissent croire le contraire. Selon David Glenz, un chercheur et directeur du UWA Center of Software Practice dans l'Université d'Australie de l'Ouest, dans son article « Facebook et le paradoxe de la vie privée » publié le 10 avril 2018 sur le site internet The Conversation, une raison principale explique ce comportement décrit précédemment. Donc en fait, la raison principale est que le problème associé à la vie privée est un problème abstrait. Donc le respect de la vie privée est un sentiment dur à exprimer et encore plus à caractériser, puisqu'il ne s'agit pas d'éléments vraiment tangibles. Ne pouvant pas réellement le caractériser, il est compliqué pour chaque utilisateur d'évaluer et de quantifier les préjudices associés à cette violation de leur vie privée en ligne. D'autant plus, le support numérique impose une nouvelle manière d'interagir et de réfléchir. La notion de vie privée ne possède pas les mêmes modalités d'inscription sur le support numérique qu'en société. Quand je parle en société, c'est quand, dans la vie de tous les jours, plus précisément. En société, le respect de la vie privée est énoncé par des lois. Il est possible de garder des informations à caractère personnel pour soi, comme chanter dans sa douche, on garde pour nous, on peut garder ce genre d'informations. Tandis que sur Internet, c'est bien plus complexe que ça, puisque les données sont collectées via des calculs et des algorithmes opaques, empêchant aux utilisateurs de s'assurer de leur contrôle, comme on a vu dans différents cours avec M. Crozat. Et donc en 2004, Bruno Bachimon, chercheur à l'université de Compiègne, évoque la notion de raison computationnelle. Donc l'émergence d'un nouveau formalisme et des nouvelles modalités d'inscription des contenus liés au numérique modifie le rapport au sens et à la pensée. D'après lui, l'usage du support numérique nécessite un mode de pensée particulier et un rapport au monde spécifique. La raison computationnelle justifie le fait que nous devons penser différemment avec les outils numériques. Néanmoins, aujourd'hui, les utilisateurs maîtrisent culturellement mal ce nouveau espace de raisonnement. S'ils prétendent transcrire leur conception de la vie privée vers le support numérique, la réalité est tout autre. En effet, dans ce cas, cette notion de vie privée peut être considérée comme tangible sur le support numérique, puisqu'elle n'est plus abstraite parce qu'elle est caractérisée par cette forme d'information sous forme de données personnelles. Puisque, voilà, c'est tangible.
C'est concret.
C'est concret, exactement. Et donc, on peut aussi citer une phrase intéressante du PDG de Facebook qui l'énonce en 2010. Il déclare que la vie privée n'est plus la norme sociale. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les internautes aujourd'hui ont pris l'habitude de partager des informations sur Internet, ne comprenaient pas les réels enjeux associés à ces données personnelles et au respect de leur vie privée. Donc un autre point intéressant est abordé dans le livre Surveillance. Je vous le conseille, il est très intéressant, il est très simple à lire si vous voulez avoir 2-3 alternatives pour éviter la surveillance sur Internet. L'auteur Tristan Ito tente de prouver que l'échange de données personnelles contre l'usage des services de Google et Facebook n'est vraiment pas une bonne affaire. D'après lui, les données personnelles ne se valorisent pas véritablement contre une somme d'argent. L'enjeu n'est pas de déterminer à quelle valeur on pourrait vendre ces données, mais il est important de comprendre à quel point il est important de préserver ces données personnelles. Selon l'auteur du livre, nos données personnelles valent beaucoup plus puisqu'elles font partie intégrante de nos vies privées, sachant que la vie privée est protégée par des lois et elle est indispensable à notre liberté. Donc, à l'inverse, il effectue le constat qu'il cite comme affligeant qu'en 2015, un utilisateur de Facebook échange ses données personnelles, donc ça veut dire à peu près toutes les informations sur sa vie, consciemment sur cette plateforme contre un service coûtant seulement 33,33€ de dépenses opérationnelles à Facebook. Donc utiliser Facebook revient à vendre une partie de sa liberté. Quand je dis une partie de sa liberté, c'est vendre, comment dire, pas vraiment une partie, mais on s'ampute d'un bout de notre liberté, à savoir le respect de notre vie privée, juste pour un service gratuit qui est considéré comme dérisoire d'après l'auteur. Et donc pour finir, un autre point aussi important de souligner, c'est que la manière dont les entreprises comme Google, Facebook ou Instagram distribuent leurs services, si on se rend bien compte, tous les services distribués par ces grandes plateformes sont gratuits. Et selon une étude nommée Your Browsing Behavior of Big Mac, Economics of Personal Information Online, en 2011, les utilisateurs évaluaient aux alentours de 25€ le prix de leurs informations dites sensibles et 10€ pour les informations issues de la navigation sur Internet. Donc les utilisateurs étant dans l'incapacité de valoriser concrètement ces informations se voient intéressés par les services gratuits, proposés par Google par exemple, puisque ces services leur apportent de nombreux avantages associés à un coût nul. Donc ils se disent que c'est avantageux pour eux puisqu'ils quantifient pas, ils minimisent la valeur des coûts des données personnelles. Et donc on peut aussi citer une phrase dans le livre « C'est vraiment moi qui décide » publié en 2008, comme l'énonce Dan Ariely, professeur psychologique et d'économie comportementale, il dit « Quand c'est gratuit, je le cite, ça fait toujours plaisir. De fait, zéro n'est pas un prix, comme les autres, c'est un déclencheur d'émotions, une source d'excitation. » Donc on comprend bien que les utilisateurs semblent minimiser le coût de leurs informations, ils pensent être dans une position avantageuse vis-à-vis du service gratuit avec lequel ils interagissent. En réalité, leurs données ont une valeur qui ne peuvent être négligées comme l'a montré Tristan Ito, comme j'expliquais précédemment.
Merci beaucoup à toi pour ce paragraphe sur le consentement. Hein. Donc tu nous proposes notamment le fait que les choses gratuites nous fassent plaisir en tant que telles. Donc ce sentiment de gratuité ou cette logique de la gratuité qui est mise en scène sur le web, eh bien, pourrait être un des facteurs. Et tu nous as parlé avant également du caractère abstrait. C'est-à-dire qu'en fait, on ne sait pas bien quelle valeur ça a. C'est pas vraiment tangible. On ne comprend pas vraiment ce qu'on perd.
Surtout quand on évoque le respect de la vie privée, ça dépend de chacun aussi. Tout le monde ne veut pas cacher des informations qui sont sensibles pour certains, alors que d'autres ne le sont pas du tout, par exemple.
Ouais, on n'a pas la même notion de ce qui est privé ou pas, tout à fait. Ouais. Allez, je vous relis. Il y a quasiment que des Adriens qui posent des questions. Donc j'en relis une d'un premier Adrien. J'en relais une, pardon. Il nous demande. Peut-être ça renvoie aussi, peut-être ça pourrait être un autre argument, mais il nous demande en quoi c'est vraiment avantageux pour nous de trouver le café qui nous convient le mieux, enfin la marque de café qui nous convient le mieux, etc. C'est-à-dire en quoi le fait de l'économie de la surveillance qui est mise en place, qui nous permet de nous guider vers les meilleurs produits, eh bien in fine, en quoi c'est un avantage pour nous? Est-ce que, dit-il, découvrir des choses un peu au hasard peut pas être plus intéressant, plus avantageux?
Non, je suis complètement d'accord, ça pourrait être plus avantageux, mais dans le sens, si on prend en globalité, beaucoup de personnes préfèrent, comme on connaît notre position, donc on son café préféré, c'est plus simple, c'est plus rapide, on sait exactement où il faut aller, et donc on perd pas de temps. Certes, il y a tout le côté de, ouais, on peut découvrir des choses, au contraire, on découvre des choses, sauf que dans le plus long de notre vie, on veut que tout soit optimisé, enfin pour beaucoup de gens, donc inconsciemment, on préfère avoir quelque chose qui est complètement défini pour nous, ou... Ça dépend de nos attentes, donc directement c'est plus simple. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui ces services marchent, parce que si ça marchait pas et que les personnes voulaient vraiment découvrir des choses, ils auraient bien quitté les services comme ça, optimisés. Mais carrément, il y a plein de choses qui font où c'est pas obligé d'être optimisé. Ouais.
Ok, alors encore une question d'un autre Adrien, et puis je lis pendant ce temps-là celle de Florine qui est arrivée. Est-ce que, alors là, la question est un peu technique, donc je pense qu'on n'aura pas la réponse. Du coup, je vous en pose une autre. Est-ce que, à votre avis, il est possible d'obliger les entreprises à effacer toutes les données qu'elles ont sur nous? Qu'est-ce que vous en pensez?
Non, je ne pense pas qu'on puisse. Déjà, il n'y a aucune autorité plus haute que les GAFAM. On a bien vu avec différentes histoires. Pour l'instant, l'État ne pèse pas plus que les GAFAM. Donc, il n'y a aucune autorité. Même, on l'a vu qu'Internet, il n'y a pas de chef. Donc, il n'y a personne, véritablement, qui va pouvoir, à l'heure actuelle, imposer des règles de telle sorte aux GAFAM. Mais pareil, vu qu'on l'a vu qu'ils sont obligés de collecter des données pour proposer un service, ce serait carrément ne plus du tout utiliser ce service-là. Donc je ne pense pas qu'on puisse faire ça. Mais peut-être qu'il faudrait, mais à l'heure actuelle, je pense que personne n'a les outils pour le faire.
Et puis surtout, pour l'instant, s'ils continuent à les prendre, c'est qu'il n'y a rien de vraiment répréhensible dans ce qu'ils font. Enfin, en tout cas, il n'y a pas de bagage juridique qui pourrait les obliger ou les contraindre pour l'instant à supprimer nos données, puisqu'ils... Ils le font grâce à des conditions d'utilisation qui sont entre guillemets imposées, mais in fine acceptées.
Acceptées par les utilisateurs. Ouais.
Ouais, en effet. Alors il y a des clauses, hein, mais vous avez bien résumé la situation. Il y a des clauses qui permettent de faire des demandes allant en ce sens.
Sur Facebook, on peut demander. Ouais, j'ai déjà demandé. On voit toutes les données. Ils en ont beaucoup et on peut les effacer. Ouais. Ouais. On peut demander, mais c'est vrai que c'est caché.
Mais voilà. Et donc c'est pas facile. Et ensuite, in fine, effectivement, à un moment, les données elles sont dupliquées, etc. Donc ça reste quand même extrêmement difficile à contrôler. Alors je vais prendre la dernière question de Florine, mais en fait sous forme de remarque, parce que sinon on va lancer un trop long débat et on a une autre émission à enchaîner. Mais donc Florine nous dit que si certaines choses sont privées pour certains et ne le sont pas pour d'autres, eh bien elle pose une question, hein, c'est du coup comment justement on pourrait faire pour fixer des limites, comment on pourrait faire pour définir un peu les choses, pour dire à un moment que tel type de données collectées par exemple par des géants du web pose problème alors que tel autre n'en pose pas, etc. etc. Donc voilà, le problème de ce point de vue-là est posé. Mais quelque part, on l'a un petit peu adressé aussi, puisque justement, le fait que ces données soient abstraites, le fait qu'elles soient relatives, on a parlé de la privacy by using, tout ça était un petit peu une façon de répondre, c'est-à-dire à un moment, et peut-être qu'on peut conclure là-dessus, eh bien l'enjeu c'est d'essayer d'une façon ou d'une autre de redonner la main aux utilisateurs pour qu'ils puissent justement se définir en quelque sorte ces choses eux-mêmes. Allez, à toi la main pour une conclusion.
Et même si on ne donne pas des informations privées, et aussi avec tout ce qui est big data et les algorithmes d'aujourd'hui, avec très peu d'informations, ils recoupent des informations et ils en déduisent des informations privées. Donc on n'est même pas obligé de donner des informations à caractère vraiment personnel qui vont pouvoir le deviner, comme si on tombe enceinte ou si on, comme vous l'avez dit, où on a une maîtresse ou quoi. Donc c'est ça qui est très compliqué.
Alors, les exemples privés que je cite en cours...
Non, c'était pas Stéphane Croza, je parlais d'Edouard Blanc.
Ok, donc comme prévu, je ne devais pas te redonner la main pour une dernière intervention parce que tu nous relançais sur un autre sujet. En tout cas, je vous remercie tous les trois de vos interventions. Donc, je rappelle que vous pouvez réécouter les interventions sur aperi.tube et sur graphite.net, aperi.tube, chaîne W1. Retrouvez les supports de cours sur librecours.net. On va faire une pause musicale, se donner rendez-vous d'ici une quinzaine de minutes, vers 15h30 à peu près, pour la seconde émission qui traitera donc des enjeux environnementaux liés au stockage et à la transmission des données informatiques.